Regard sur le Grand Victoria est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, seul organisme mandaté pour soutenir financièrement les radios communautaires et de campus du pays. Regard sur le Grand Victoria. Votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité municipale. À retrouver tous les mercredis à midi et en rediffusion le samedi à 10h sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM. Mais aussi en balado sur radiovictoria.ca. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 septembre. Merci d'écouter Radio Victoria, c'est François Macon au micro et je suis ravi de vous retrouver après cette courte pause estivale pour cette nouvelle émission de Regard sur le Grand Victoria. J'espère que vous aussi vous avez pu vous reposer et que comme moi, vous nous revenez en pleine forme pour cette rentrée et cette nouvelle année. Une nouvelle année que nous allons débuter ensemble avec l'actualité prédominée cette semaine par ce qui s'est passé à Victoria et par ce qui va se passer avec le conseil municipal prévu jeudi. Nous irons également faire un tour du côté de Colwood et de sa niche où nous verrons ensemble les tarifs des loisirs offerts par les services des parcs et loisirs de la municipalité vont malheureusement augmenter. Et comme d'habitude, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir de l'actualité municipale du Grand Victoria. Je vous le disais en titre, l'actualité toujours dominée dans la capitale par l'affaire de la gestion des sans-abri dans les rues de la capitale et dans les parcs, puisque mardi hier, les agents des règlements du service des parcs de la municipalité ont obligé les personnes qui s'abritaient à Centennial Square à déménager. Cette ordonnance a été rendue par le directeur des parcs et des loisirs et des installations le vendredi 28 août dernier, ce qui permet la fermeture de parcs et d'espaces ouverts là où des conditions dangereuses existent, je cite. Cette décision qui résulte d'un processus administratif et non pas politique, puisque les élus ne sont pas encore prononcés sur cette question, a été prise à la suite d'une enquête de police ouverte par les services de VicPD qui a annoncé le résultat d'une opération d'infiltration au cours de laquelle la police se faisait passer pour des clients infiltrés pour acheter de la drogue, notamment de la méthamphétamine, de la cocaïne, de la psilocybine et du fentanyl dans plusieurs tentes de Centennial Square. À la suite de cette enquête, 17 personnes font face à des accusations et une personne supplémentaire est recherchée pour vol qualifié. Hier, le personnel de la ville a donc procédé au déménagement de ces populations vulnérables et a souligné qu'une fois ce déménagement complété, le nettoyage et la remise en état, y compris la restauration du paysage, seraient assurés par le personnel des parcs. Politiquement, la ville reste sur ses positions et reconnaît que chaque personne a le droit à un abri pendant la crise de la Covid-19 et que cette crise a d'ailleurs exacerbé les défis auxquels sont confrontées les populations vulnérables. Toutefois, la municipalité explique dans un communiqué que Centennial Square est désormais devenu un ancrage pour le crime organisé et que des actions sont désormais nécessaires pour protéger le public, les entreprises et ceux qui cherchent un abri. Un abri donc dans le Grand Victoria, cela devient un vrai challenge puisque les populations qui viennent d'être déplacées de Centennial Square risquent, selon toute probabilité, de se retrouver pour une grande partie d'entre elles dans le parc Beacon Hill. Le 4 août dernier, la municipalité avait saisi la Cour suprême de la Colombie-Britannique demandant une ordonnance spéciale, une ordonnance qui a été rendue par la Cour suprême demandant justement à ce qu'une partie de la population qui campait sur le parc Beacon Hill puisse être relogée dans des zones considérées comme moins sensibles écologiquement et culturellement parlant. Aujourd'hui, la municipalité doit faire face à un nouveau front de contestation à Beacon Hill Park mené par une association, les Amis de Beacon Hill Park, qui réclame le départ pur et simple des campeurs. Pour ce faire, cette association vient de lancer depuis 2 semaines une collecte de fonds en ligne. Les fonds ainsi récoltés pourraient servir au lancement d'une procédure judiciaire à l'encontre de la municipalité. Cette plainte pourrait s'appuyer également sur les dispositions législatives qui régissent le parc Beacon Hill, des dispositions uniques en leur genre qui remontent au début du siècle dernier et qui confèrent au parc un caractère unique où toute exploitation commerciale serait prohibée. Une exception dans le paysage des règlements des parcs de la ville sur laquelle compte bien s'appuyer cette association pour parvenir à ses fins. La ville de Victoria fait donc face aujourd'hui à deux impératifs. Le premier en termes de sécurité qui est réclamé par les populations et les habitants de la capitale. Et le deuxième, évidemment, le manque criant de logements pour ces populations vulnérables, mais aussi pour les personnes à faible revenu. Concernant le premier aspect, la maire de Victoria, Lisa Helps, a déclaré dans un communiqué cette semaine qu'elle souhaitait mettre en place davantage de ressources policières pour assurer la sécurité des personnes dans les parcs de la ville où un nombre croissant de personnes sans domicile se réfugient durant la pandémie. La maire Lisa Helps, en compagnie de la conseillère Charlène Tortorgio, recommande donc que le conseil consacre $95 000 à une patrouille de service spécial au cours des 4 derniers mois de l'année. S'il est approuvé, ce budget couvrirait les heures supplémentaires liées au déploiement de 2 agents de force de l'ordre, 4 heures par jour, 7 jours par semaine, et ce du 11 septembre jusqu'au 31 décembre. Cette motion sera donc examinée jeudi par le Conseil, ainsi qu'une série de mesures qui doivent être conçues pour faire face aux campements qui ont vu le jour dans la ville. Un rapport du personnel recommande ainsi d'interdire le camping près des écoles et dans certains parcs, de limiter les abris à 3 mètres carrés et d'exiger que les structures soient espacées d'au moins 4 mètres. De plus, une motion des conseillères Marianne Alto et Sarah Potts recommande que la ville dépense $40 000 pour solliciter les personnes en situation d'itinérance afin de connaître leur opinion sur la façon de mieux gérer les campements. Concernant le volet sécuritaire, la maire Lisa Helps a déclaré que fournir au département de police de Victoria des ressources suffisantes pour assurer la sécurité du public, du personnel municipal et des résidents des campements doit faire partie impérativement de la discussion, avant de déclarer qu'il n'y a pas de solution miracle pour résoudre la situation actuelle et que la mairie resterait dans ses positions d'offrir, en temps de pandémie, des solutions de logement et des abris aux personnes sans domicile fixe. Et dans sa volonté d'offrir des solutions d'hébergement, la ville de Victoria peut toujours compter sur le soutien de la province, la Colombie-Britannique, qui vient d'acheter par l'entremise de BC Housing une propriété dans le centre-ville de Victoria pour construire jusqu'à 50 nouvelles maisons, des logements permanents avec des services de soutien 24 heures sur 24 pour les personnes de la communauté en situation d'itinérance. Ce nouveau complexe locatif se situera sur la rue Mears et sera mis en place avec un nouveau comité consultatif communautaire qui supervisera l'intégration du logement avec ses services de soutien au sein de la communauté. Et ce comité répondra à toutes les préoccupations des riverains et des habitants du quartier. La ministre du Logement provincial, Selina Robinson, a reconnu mardi qu'il y avait encore beaucoup à faire pour trouver des logements dans la région de la capitale. Selon un rapport de l'UCRD, du Capital Regional District, dont nous parlions ici avant les vacances, plus de 1500 personnes seraient en situation d'itinérance dans la région du Grand Victoria. Pour l'heure, avec le soutien de la province, plus de 400 personnes ont été hébergées dans d'anciens hôtels et autres sites du Grand Victoria, mais un rapport de la ville indique qu'au moins 275 personnes demeurent dans la rue. La province de la Colombie-Britannique avait entre autres déboursé $15 000 000 pour acheter le Paul's Motor Inn, situé au 1900 rue Douglas, afin d'offrir plus de logements temporaires aux personnes sans-abri à Victoria. C'était la deuxième acquisition foncière faite dans la ville par le gouvernement provincial après celle du Comfort Inn. De plus, une situation provisoire est toujours en cours au Save on Food Memorial Center, qui a été transformé en solution d'abri d'urgence modulaire qui peut aujourd'hui accueillir près de 150 personnes. De son côté, la ville de Victoria s'apprête à offrir une solution inédite à la pénurie de logements locatifs qui s'abat depuis plusieurs décennies sur la capitale. Les élus vont donc se réunir demain jeudi en conseil municipal et vont examiner un projet de la création de plus de 1000 logements locatifs dans au moins 4 tours de 26 et 30 étages dans la zone autour de l'historique Roundhouse du chemin de fer Esquimau-Nanaimo. La Roundhouse, ou la Rotonde en français, a été achevée en 1913 et a été désignée bâtiment historique en 1992. Elle est entourée d'ateliers de chemin de fer et de dépendances, pratiquement inchangée depuis sa construction. Elle est très représentative de l'ère du chemin de fer à vapeur au Canada. Les élus vont donc se pencher sur des plans de rezonage qui ajouteraient une utilisation résidentielle à une partie de Bayview Place, dans les Songhees, aux abords du numéro 200 de la rue Esquimalt. Des immeubles en copropriété ont déjà été construits sur le site de Bayview, comme le Bayview One ou le Promontory. Mais cette fois, Ken Marias, fondateur de Focus Equity, le principal développeur de Bayview Place, a déclaré que le projet fournirait de nombreux logements abordables à Victoria, ainsi qu'une assiette fiscale essentielle pour les services, avec un accès piétonnier et cyclable. De plus, le couloir ferroviaire qui traverse le site jusqu'au pont de la rue Johnson serait préservé dans le plan et pourrait être utilisé plus tard comme un lien de transport vers le centre-ville. La proposition de rezonage vise à créer davantage un mélange de résidents, à apporter de la vitalité à la zone Roundhouse et à compléter le site historique, a déclaré l'architecte Patrick Cotter. Le site est déjà zoné et prêt pour accueillir 53 000 pieds carrés de commerce de détail et commercial dans les anciens bâtiments, et de nouveaux plans proposent d'ajouter 10 000 pieds carrés de commerce de détail au sol à distribuer dans les nouveaux bâtiments le long des rues. Trois des immeubles locatifs du côté nord-ouest du site aurait 26 étages, tandis qu'une autre tour à proximité serait, elle, haute de 30 étages. Toujours concernant le logement, une autre excellente nouvelle qui nous vient cette fois-ci de la ville qui grandit le plus vite en Colombie-Britannique. Il s'agit bien sûr de Colwood. La municipalité de Colwood, qui tenait hier soir un conseil municipal, a validé le projet de création de plus de 3000 maisons sur le site de l'ancienne gravière à Royal Bay, un projet qui a reçu intégralement le soutien du conseil municipal. Ce projet nommé Royal Beach et mené par le consortium Seacliff Property doit encore faire l'objet d'une audience publique et les détails du développement sur le site de 134 acres continuent d'être peaufinés par le personnel de la ville. La proposition verrait une gamme variée de logements, d'espaces commerciaux et de bureaux et de parcs sur la propriété qui s'étend à l'est du boulevard Metchosin jusqu'au bord de la mer. Lundi soir, le conseil a donc adopté la première et deuxième lecture des modifications apportées à son plan communautaire et à son règlement d'utilisation des terrains pour permettre ce développement. Idéalement, une audience publique aurait lieu à la fin septembre ou au début du mois d'octobre. L'ensemble du développement pourrait prendre près de 2 décennies à se compléter et pourrait voir près de 5000 nouvelles maisons construites à Colwood. Si le projet est approuvé en lecture publique, la construction d'un restaurant pub sur le front de mer pourrait débuter au début de l'année 2021, ainsi que la construction d'une connexion routière au niveau de la rue Latoria jusqu'au front de mer, où se trouveraient des bâtiments de 2 étages avec des magasins, des services et une place publique donnant sur l'océan. Lors de la réunion du conseil de lundi, il a été décidé d'autoriser les bâtiments de 12 étages sur une zone en pente près de Metchosin Road uniquement. Une proposition de 12 étages dans les quartiers du front de mer a été ramenée à 6 étages. Le promoteur et le personnel de la ville cherchent encore à fixer un plafond pour l'espace non résidentiel autorisé dans la section sud-ouest du site. L'espace pourrait être utilisé pour une épicerie, des hôtels, des locaux d'enseignement ou des bureaux. Les plans prévoient également la création de 50 acres de parcs, de sentiers et de terres publiques, dont 10 sites pour des utilisations spécifiques en plein air, tels que des parcours santé, de yoga ou de beach volley. Les plans de Seacliff sont divisés en 3 zones, les falaises, le front de mer et les promontoires, et le front de mer, la partie la plus intéressante au centre de la propriété, pourrait compter jusqu'à 1850 maisons, plus un maximum de 80 000 m² à usage non résidentiel. Cette zone du front de mer pourrait également être le lieu d'implantation du débarcadère qui comprendrait un espace pour un éventuel terminal de traversier pour passagers, visant à relier par une desserte maritime triangulaire Esquimalt et le centre-ville de Victoria. Toujours à Colwood, lors du même conseil municipal de ce lundi, les élus ont décidé à l'unanimité de réaffirmer une décision du 22 juin de réouvrir la route Ocean Boulevard aux automobilistes. Après un été sans aucune pollution ni aucun bruit, la route devrait réouvrir ses portes en journée du 8 septembre. Toutefois, la ville a fait savoir qu'elle travaille sur des concepts pour la création d'un sentier piéton reliant Lagoon Beach à Royal Beach. Depuis que la pandémie a été déclarée à la mi-mars, la route Ocean Boulevard, le long de la lagune d'Esquimalt, avait été fermée à la circulation pour tenter de dissuader les rassemblements et assurer la sécurité des résidents. Mais cette décision s'est avérée controversée, beaucoup appelant à sa réouverture, tandis que d'autres résidents souhaitaient sa fermeture complète et permanente aux automobilistes. Je vous le disais en titre, à compter du 8 septembre, le département des parcs, des loisirs et des services communautaires de la ville de Saniche va mettre en œuvre des augmentations sur les droits d'entrée, une augmentation qui a été approuvée par le Conseil dans le cadre du processus budgétaire 2020. Cette augmentation va surtout concerner les tarifs d'admission uniques et ceux des carnets de 10. Toutefois, pour compenser, les centres de loisirs de Saniche vont remettre en circulation les passes de 25 entrées pour une durée limitée. Ces passes de 25 entrées seront disponibles tant que les restrictions Covid-19 resteront en vigueur. La ville fait savoir que ce pass offre le prix le plus abordable pour toutes les tranches d'âge et toutes les activités. Il en coûtera 147$ pour un adulte, 108$ pour les aînés, les seniors ou les étudiants, et 72$ pour les enfants ou les jeunes. Les clients qui ne sont pas en mesure de payer une entrée ou qui ont des problèmes financiers pour accéder au laissez-passer de 10 fois ou de 25 fois peuvent demander une aide dans le cadre du programme LIFE. Dans le cadre du récent examen régional, le niveau de revenu minimum du programme LIFE a été ajusté pour augmenter le nombre de personnes et de familles qui peuvent accéder à ce programme. Les laissez-passer mensuels seront réintroduits lorsque les services de loisirs seront en mesure de reprendre pleinement leur activité dans le cadre de la phase 4 du plan de relance et de redémarrage provincial. Le canton d'Esquimalt annonce, lui, la réouverture des installations aquatiques de son centre de loisirs. Le personnel des loisirs du township d'Esquimalt a mis à profit les derniers mois de fermeture de l'établissement en effectuant des travaux d'entretien approfondis, annonce la municipalité du township d'Esquimalt. L'installation aura une réouverture prévue en douceur à partir du 15 et jusqu'au 17 septembre, ce qui permettra au personnel de faire les ajustements nécessaires pour assurer la sécurité alors que le retour progressif des visiteurs se poursuit. Les réservations pour ces séances ouvriront en ligne sur esquimalt.ca/recreation et par téléphone au 250 412 85 00 à 8h le mardi 8 septembre. La réouverture complète est prévue le 21 septembre avec participation sur réservation à l'avance seulement. Les réservations pour ces sessions débuteront, elles, le 18 septembre. La réouverture initiale de la piscine comprendra des cours de waterfit et des tours de nage avec des temps réservés aux adultes, aux familles ou aux parents et aux tout-petits. Alors que le bain à remous, le sauna et la salle de cours d'eau resteront fermés, Bubble Swim sera présenté en avant-première en octobre. Les familles et les groupes sociaux proches peuvent louer les piscines pour la nage en longueur pour un usage privé à un taux horaire le samedi après-midi. La piscine pour la nage en longueur, les cours de waterfit et les baignades en famille seront tous disponibles pour inscription sur d'autres créneaux horaires. Les cours de natation reprendront, eux, à une date ultérieure qui n'a pas encore été fixée. La municipalité du township d'Esquimalt souhaite réaffirmer que la réouverture est conforme au plan de redémarrage de la province de la Colombie-Britannique. La British Columbia Recreation and Park Association et la Royal Life Saving Society of BC ont fourni des conseils pour l'exploitation sécuritaire des piscines et des installations aquatiques. Et comme pour tous les espaces publics, si les utilisateurs ressentent un signe de maladie, il aurait bien sûr demandé de rester à la maison et de suivre les directives de l'agent de santé provinciale. Pour plus d'informations sur les horaires et les réservations, vous pouvez toujours visiter esquimalt.ca-récréation. Et voilà qui clôture cette émission, cette 19e émission de Regard sur le Grand Victoria. Une émission spéciale un peu plus courte car c'est la rentrée. Je vous remercie évidemment de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une émission consacrée en grande partie au Conseil municipal de Victoria qui va se tenir, je vous le rappelle, demain avec au rendez-vous des invités, des experts avec lesquels nous débattrons des sujets d'actualité qui concernent le Grand Victoria. D'ici là, je vous souhaite évidemment de prendre soin de vous et de passer une excellente semaine à l'écoute du 107.9. À bientôt.